18h, 19h, c'est vous qui le dites, présenté par la rédaction de Radio U. Salut à tout le monde, bienvenue dans C'est vous qui le dites, notre quotidienne du lundi au jeudi de 18h à 19h. Aujourd'hui, on accueille Alexandre Socca, artiste breton, qui vient discuter avec nous de ses nouveaux projets. Ensuite, on écoutera un reportage de Chloé. On y entend un témoin de l'agression fasciste du 20 septembre qui a eu lieu à la place Guérin, à Brest, ainsi que la parole d'une personne présente lors du rassemblement antifasciste du 25 septembre. Mais d'abord, bonjour Alexandre.
Salut.
Ça va bien?
Ouais, et toi?
Très bien, merci. Alors, tes musiques sont douces et profondes, elles nous font rêver et voyager. Moi, je me demandais comment t'as été amené à faire de la musique.
Écoute, je fais de la musique depuis que j'ai 16 ans, parce que mon papa m'avait acheté ma première guitare à ce moment-là. Et sinon, par contre, de manière professionnelle, on va dire, depuis que j'ai 22-23 ans. J'ai commencé, si tu veux, à faire de la musique pour le cinéma et la télé. Parce que j'avais rencontré complètement par hasard un producteur de musique justement de films, donc voilà, j'ai atterri là-dedans comme ça.
Et du coup, tu dis que c'est ton papa qui t'a offert ta première guitare, c'est quelque chose d'un peu familial, j'imagine?
Non, pas du tout. Mes parents écoutent beaucoup de musique, mais n'en jouent pas. Donc c'était juste, histoire d'avoir un instrument, quoi. Donc voilà, ils m'avaient chopé ça à la brocante et puis depuis j'ai pas lâché.
Ils ont eu le nez creux. J'ai su que tu avais commencé par jouer de la guitare sur les marchés pour gagner un peu de sous. Est-ce que tu as une petite anecdote ce qui se serait passé à un marché?
Bah en fait, ça c'était assez rapidement, je crois que j'avais peut-être 16, 17 ans, un truc comme ça. Je faisais des reprises de Paolo Nutini, Jack Johnson, enfin voilà, ce genre de musique. Et je voulais juste savoir si en dehors de ma famille, mes parents et tout, mes amis, s'ils me racontaient pas des cracks en me disant que c'était joli ce que je faisais. Donc du coup, la première scène, en gros, ça a été sur le marché parce que c'est accessible, j'avais juste besoin de demander de l'électricité à un bar et puis c'était à Morlaix. Et donc voilà. Et ce qui est cool, c'est que c'est un test grandeur nature dans le sens où les gens sont pas là pour écouter de la musique, ils sont juste là pour faire leurs courses. Donc s'ils s'arrêtent pas, ils s'arrêtent pas. Et par contre, s'ils s'arrêtent, c'est que ça les touche au moins un minimum. Et écoute, j'avais du monde en terrasse, donc c'était cool.
Trop bien. Et à part ça, du coup, et ce que tu disais tout à l'heure, les musiques que t'as fait pour ton copain qui était producteur, est-ce que t'as eu d'autres jobs dans le milieu de la musique?
Non, j'ai fait ça pendant 7 ans. J'ai fait donc c'était de la musique pour des films Cinoche et puis séries télé, beaucoup pour TF1, France 2 et sinon c'était des films Gaumont et tout, enfin bref, donc des assez gros trucs, ce qui m'a permis d'en vivre et donc de continuer du coup à faire de la musique. Après ce qui s'est passé, c'est juste qu'il y a le Covid qui est passé par là, donc il y avait absolument plus rien. Et depuis je me suis mis à écrire en français et puis c'est reparti. Enfin, on essaye.
Et j'ai vu que tu étais aussi passionné de photos et de graphisme et aussi de surf. Ça fait beaucoup de passion. Oh. Ça doit t'aider pour la photo et la photo pour les clips, je pense, si c'est toi qui tournes tes clips.
Ouais, bah en gros, si tu veux, c'est même pas que c'est un délire de faire tout soi-même, c'est juste une histoire aussi de sous. Donc t'en viens au final à faire pas mal de trucs tout seul, que ce soit pour la composition de la musique, et puis du coup l'image. Et donc là au final j'ai tourné peut-être le premier, le deuxième clip en mode plan séquence pour pas avoir de montage à faire et tout, et que ça soit assez assez simple à réaliser. Et au final, écoute, ça a fait une petite direction artistique sympa. Et du coup, maintenant, je reste là-dedans. Mais c'est surtout parti du fait que si tu veux tourner un clip et tout, c'est tout de suite, tu dois tout de suite mettre pas mal de moyens sur la table. Et puis voilà, donc c'est le côté pratique. Donc toucher un petit peu à tout, c'est ouais, à la base c'est une passion et tout, mais c'est aussi pouvoir voilà tout faire, tout contrôler entre guillemets soi-même à moindre coût.
Et t'arrives à trouver un équilibre dans cette polyvalence, j'ai envie de dire.
Ouais, bah après du coup, si tu veux, moi j'ai atterri dans la musique à l'image très tôt, et c'est ce que je voulais faire. C'est toujours ma grosse passion, donc de mettre de la musique sur de l'image. Donc même quand j'écris, j'ai tout de suite des images qui me viennent en tête et tout, donc l'un va pas sans l'autre. Donc au final, même quand je compose, je suis déjà en train d'imaginer plein de trucs dans ma tête au niveau image. Donc après, généralement, quand je finis mon morceau, j'ai juste à sortir de la maison et puis je tourne le truc qui va bien et puis c'est parti.
Et alors, on pourrait parler un peu plus de tes musiques, si tu veux bien.
Bah ouais.
De ce que j'ai écouté, tu parles beaucoup de tes sentiments, de ce que tu ressens. De l'amour, enfin des sentiments forts, ouais. En général, comme dans ton titre, par exemple, Peau de miel. Qu'est-ce qui t'inspire au quotidien ?
Bah écoute, c'est bateau, hein, mais tout le monde écrit sur ce genre de truc, mais c'est juste la vie. Alors pas forcément, c'est pas forcément tout le temps autobiographique, c'est pas forcément tout le temps la vérité. Il y a aussi c'est romancé et tout, mais ouais, c'est la vie, c'est juste être à l'écoute et puis être à l'écoute des autres aussi, de leur histoire, des petits trucs, des petits bouts d'histoire qu'on peut glaner un petit peu par-ci par-là. Donc c'est rester ouvert sur ce qui peut se passer dans la journée, et puis après sont des souvenirs. Par exemple le titre Attends, qui sortira pour avec l'EP mi-octobre, là pour le coup ça parle de décès, donc c'est un deuil, celui de ma grand-mère. Mais comment dire, après j'ai pas une écriture directe, donc c'est pas, enfin si, c'est personnel, mais tout le monde peut se reconnaître dedans. Et si chacun peut se faire sa propre histoire de mes chansons, alors c'est cool. Tu vois, par exemple, t'as un titre comme Porte-bagages qui peut s'écouter tout simplement en faisant du vélo ou je sais pas quoi, juste histoire de penser à autre chose ou de se balader. Mais t'as un double sens aussi, c'est pas seulement faire du vélo, c'est aussi porter les bagages de quelqu'un d'autre, donc porter son histoire, ses forces, ses faiblesses et tout, etc. Enfin, c'est des histoires de vie, quoi.
Et pour toi, la musique, le fait d'écrire sur ce que tu ressens et tout, est-ce qu'on peut dire que c'est un peu une thérapie, ou alors c'est quelque chose, c'est juste pour le sortir de ta tête et le chanter, le mettre dans les oreilles des gens?
Pas du tout. Alors du coup, ouais, pour le coup, moi, c'est pas du tout une thérapie. C'est vraiment, comment dire, parce que c'est un support que je trouve joli. Donc, je commence toujours par composer la musique et après je viens mettre des paroles dessus. Mais si je pouvais vraiment juste, par exemple, juste composer de la musique, ça me suffirait, entre guillemets. Mais comment dire, après je viens mettre des paroles dessus pour étayer le propos et puis comment expliquer un petit peu la musique que je voulais faire, qui était dans ma tête, quoi. Et puis j'essaye toujours de me mettre à la place des gens qui vont écouter et de me dire tiens, est-ce que ça peut leur parler, est-ce que cette phrase peut les toucher, leur rappeler un souvenir, des odeurs, tout ce genre de trucs. C'est vraiment histoire que si ça peut te faire une petite bande son, tu vois, de comment dire, d'une partie de ta vie, tu vois. On l'a tous, hein, on a des sons qui nous rappellent notre enfance, notre adolescence et tout, etc. Et puis des périodes de la vie un petit peu charnières et tout, on a tous ce genre de sons. Et donc non, pas une thérapie, c'est plus tourner vers les autres que tourner vers moi-même.
Ok, bah pourtant ça semble tellement... T'as tellement l'air de te confier dans tes musiques. Moi, quand j'ai écouté, j'avais vraiment l'impression d'être dans un entre-soi, tu vois. Et voilà. Du coup, c'est marrant que tu te dises ça. Je m'y attendais pas du tout.
Bah du coup, ça me fait plaisir parce que c'est réussi.
Bah ouais, carrément.
Bah après, oui, c'est clairement inspiré de ma vie et de ce qui m'entoure. Mais comment dire, j'essaye d'avoir une écriture avec pas mal de métaphores, un peu de poésie, même si très franchement, je me considère absolument pas comme poète ou voilà, je te dirais même pas que j'écris bien. Enfin, j'en sais rien. Juste, j'écris ce qui me passe par la tête. Mais si ça touche, bah, je suis très content.
Et ça te prend combien de temps d'écrire, de composer, d'enregistrer ?
C'est super rapide. Là, pour le coup, on va dire la composition, généralement, tu vois, je gratte toujours un petit peu ma guitare, un petit peu tous les jours, tu vois, mais ça peut aller juste de 2 minutes à 1 heure, quoi. Et puis, il y a un moment où je vais tomber sur une suite d'accords ou juste 2-3 notes, une petite mélodie qui me plaît bien. Et donc, du coup, là, je vais me mettre devant mon ordi avec la... J'ai pas grand-chose, hein, c'est juste un ordi, une carte son, un micro et puis voilà. Et après, je déroule autour de ces quelques accords. Mais disons que la composition musicale... En une journée c'est fait et ensuite pour écrire dessus je dirais que j'ai peut-être un ou deux mots qui me viennent qui souvent vont bien sonner avec la musique et qui après ça va me pousser à approfondir sur un sujet et voilà. Et généralement pour l'écriture par contre, si j'ai pas fini la chanson en une demi-heure, après je suis foutu, j'arrive pas à revenir dessus.
Ah ouais, c'est un one shot, sinon c'est pas possible.
Ouais.
Et tu n'abordes pas.
Juste être un souvenir, tu vois, un instant, un truc comme ça qui va falloir que je couche et puis voilà, histoire d'être en raccord avec la musique que je suis en train de faire et le comment dire ouais, souvent ce sont des souvenirs et le souvenir que j'ai en tête et puis voilà, et ça va vite. Après, je dis pas que je reviens pas sur le texte. On va dire que la trame principale elle est faite en une demi-heure. J'ai à peu près toute la structure, couplet, refrain, etc. Mais par contre, Par contre, ouais, je peux revenir sur certains mots pour essayer de les faire pour que ça sonne mieux ou ce genre de choses.
Alors, on va continuer l'interview avec Alexandre Soca, mais on va faire une petite coupure musicale. On va justement écouter une de tes chansons qui est d'une sincérité très touchante. Elle s'appelle La Lune. Fermez les yeux et laissez-vous emporter par la mélodie toute douce et la voix hypnotisante d'Alexandre Soca.
Merci.
Qui me suit, belle et indécis, c'est la lune qui me dit, oh, oh. La tête en l'air, je compte les étoiles, je trouve pas la tienne, c'est pas normal, j'ai bien besoin de ton aide.
Radio U101.1, on vient d'écouter La Lune d'Alexandre Soca qui est avec nous pour nous parler de ses nouveaux projets. Alors, pour reprendre un peu ce qu'on disait tout à l'heure, Alexandre, ouais. Tu n'apportes pas que des sujets joyeux, tu nous parles aussi de mélancolie, dans Mélancolie cruelle, de tes peurs par rapport à la paternité, dans Nous, mon amour, et du deuil aussi.
Ouais.
Est-ce que tu trouves qu'il y a des sujets ou des thèmes qui sont quand même vraiment plus difficiles à aborder ou alors tout te vient plutôt naturellement?
Là, j'ai envie de te dire qu'ils sont, ils sont plutôt faciles dans le sens où, comment dire, ce sont des sujets qui me touchent directement et qui nous touchent directement de manière générale. Après, si tu veux aller sur les sujets d'écriture et tout, j'avais un titre, en anglais que j'avais sorti qui s'appelle For the Bill et là pour le coup c'est sur un enfant soldat et du coup l'écriture en anglais me permettait de dire des choses que pour l'instant j'arrive pas à dire en français des choses qui sont très très crues, quoi. Je parle d'enfants qui dont les têtes explosent et tout, enfin voilà quoi, des trucs en français, l'exercice d'écriture est pas du tout le même, et comment dire, j'aimerais beaucoup aller sur ce genre de sujet, mais faut savoir le faire, quoi. Il faut savoir bien le faire, et faut aussi avoir une certaine légitimité à le faire, entre guillemets. J'y ai été très légèrement avec Été 90, parce que j'ai une double nationalité, je suis franco-mauricien, et donc du coup de mon père qui est né à l'île Maurice, mes arrières ont été amenés par bateau et tout à Maurice en tant qu'esclave pour travailler dans les champs de canne et tout, donc il y a toute une histoire aussi, une autre histoire que j'aimerais bien approfondir, mais j'avoue que pour l'instant je sais pas comment le faire.
Et est-ce que, à l'inverse, ça arrive que des fois tu veuilles aborder un sujet, mais que tu trouves pas les mots ou les accords qui vont avec ?
Bah ouais, c'est ça. Bah, les mots. En fait, si les. Pff, non, c'est pas. C'est parce que c'est juste dur. À... Ouais, c'est dur à écrire. Parce que là, pour le coup, tu peux pas. Pas si tu pourrais aborder des sujets complètement de manière frontale, sans mettre trop de forme, mais est-ce que ça irait avec le style musical que je fais? Je pense pas. Tu vois, c'est pas du rap, c'est pas du rock. Après, c'est mettre des étiquettes sur des trucs aussi, mais. Ouais, pour l'instant, ouais, il y a clairement des sujets, je sais pas écrire de, je pourrais pas écrire dessus en français.
Et sinon, à part ça, tu t'es lancé un défi de faire un single par mois en 2025. Qu'est-ce qui t'a motivé ?
Bah, en gros, j'avais un petit peu de réserve au niveau des morceaux. Je savais pas trop comment les sortir. Est-ce que je sortais tout d'un coup ? Est-ce que je sortais tous les deux mois, tous les je sais pas quoi ? Et au final, c'est tout bête, hein, mais c'est essentiellement pour essayer de relancer, de faire bouger les algorithmes. Parce que de toute façon, on est là-dedans et qu'il faut jouer avec ça. Et je me suis dit, ben, un single par mois, ça me pousse à avoir une rigueur déjà de sortie. Donc il y a tout ça aussi, et puis très vite s'est greffé au projet un attaché de presse. Donc là pour le coup, c'était vraiment speed les sorties, dans le sens où je devais fournir toute la matière visuelle à l'attaché de presse 2 semaines avant la sortie. Donc en gros, quand j'ai un titre qui sortait, 2 semaines après, il fallait que j'ai tout pour sortir l'autre titre. Mais et puis voilà, je me suis dit, une fois par mois, je sors un titre, et on verra ce qui se passe. Et au final, j'ai sorti 2 titres. Au troisième titre, j'ai réussi à choper un attaché de presse qui le projet lui tient beaucoup à cœur, donc c'est vraiment cool. Et puis voilà, maintenant j'ai réussi à avoir un manager, une bookeuse, donc on continue, quoi.
Et là actuellement, tu vis toujours de la musique ?
Non, ça, je touche encore quelques droits et tout sur les musiques qui ont pu passer il y a quelques années maintenant, mais non, pas du tout.
Alors, aussi pour revenir du coup, je pense que c'est un peu la classique à toutes les interviews, on doit te le rappeler, mais t'as fait The Voice en 2017.
Ouais.
Et d'où t'es venue cette envie de participer à l'émission ?
Alors moi, j'ai jamais regardé cette émission, je la regarde toujours pas, j'ai juste regardé... par curiosité, hein, pas par ego, je sais pas quoi, mais j'ai juste regardé mon passage pour savoir ce que ça donnait. Mais en fait, ils avaient, c'est eux qui m'ont appelé les équipes de casting. Et cette année-là, ils cherchaient des profils de surfeurs-chanteurs.
Okay.
Donc du coup, voilà, j'ai dit 3 ou 4 fois non. Et j'ai fini par dire oui parce que c'est débile de dire non à une promotion pareille, quoi. C'est génial.
Ça a eu un impact quand même dans ta carrière musicale.
Bah ouais, parce que au niveau professionnel, au final, ton nom circule après. Donc c'est plus facile pour contacter les gens. Et puis voilà, et puis au jour d'aujourd'hui, même si ça fait quand même pas mal de temps, quand tu annonces une date ou ce genre de truc, tu sais que il y a quelques personnes, tu vois, qui se sont greffées à la musique grâce à ma musique grâce à The Voice. Donc c'est trop bien, non, c'est que du plus.
Et est-ce que tu aurais une petite anecdote sur The Voice?
Une anecdote positive ou négative?
Ah bah, comme tu veux, ce que tu as envie de raconter.
Une anecdote pas forcément, juste... C'est quelque chose, c'est un bon tremplin. C'est un gros outil marketing, ça faut le savoir aussi. Et puis ça reste de la télé. Donc faut pas s'attendre à des merveilles de la télé. Donc voilà. Mais comment dire, une anecdote, même pas vraiment, tu vois. Pourtant, j'étais dans l'équipe de Zazie, je pourrais même pas te raconter de trucs sur Zazie. Je l'ai juste rencontré pour tourner les séquences qu'il fallait tourner pour la TLH, mais sinon, j'ai jamais eu de contact avec elle. Donc écoute, même pas, quoi.
Et pourquoi t'avais choisi Zazie?
Parce que c'est la seule dont je connaissais un peu les musiques.
Ok, marrant.
Donc voilà. Après, si, j'ai une petite anecdote, mais c'est une anecdote pas forcément très, très radiographique. Je sais pas comment on dit. Non, c'est lors de mon passage à comment ça s'appelle, à l'aveugle. Donc on avait rendez-vous au studio à 6h du matin. Moi j'étais rentré juste la veille à minuit. On était parti en surf trip au Maroc pendant 2 semaines. J'avais chopé la tourista et donc j'avais une tourista de malade mental pour le tournage du truc à l'aveugle. Je sais plus comment ça s'appelle.
Oh non. Vraiment, donc, pas de chance.
Donc voilà. Donc tu rajoutes à la tourista du stress. Parce que c'est extrêmement stressant.
Ah bah oui, tu m'étonnes.
Donc voilà, j'étais blindé de médoc, de smecta et tout. Et pour ceux qui me connaissent vraiment bien, parce qu'on te filme en train de marcher jusqu'à la chaise, enfin jusqu'à l'emplacement où tu dois chanter. Et toutes les personnes te diront qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Un petit air stressé et un petit truc en plus, quoi.
Ah ouais. Je marchais droit comme je sais pas quoi.
Ah ouais, non, c'est les pires circonstances.
Ouais.
Pardon. Pour revenir à ta musique, tu as quand même ton propre style. Je trouve que ce que tu fais, c'est vachement... Enfin, on sait que c'est toi, quoi, c'est reconnaissable. Tu as toujours joué et chanté ce genre de mélodie ou tu as eu des phases un peu plus expérimentales?
Non, j'ai toujours fait ça. J'ai toujours fait ça. Et comment dire, c'est pas forcément de la musique que j'écoute en plus. mais voilà. Écoute, c'est ce qui sort de ma tête et je peux rien faire. Je peux pas faire autrement.
Parce que t'écoutes quoi, toi, comme musique?
Bah là en ce moment je suis à fond sur Fontaine D.C. J'ai toujours été fan de Gorillaz. Donc voilà, enfin on n'est pas dans de la folk. J'écoute pas mal de rap aussi ou ce genre de choses. Mais ouais.
Ok. Bah, merci beaucoup Alexandre d'avoir pris le temps de te livrer à nous. Bon courage pour tes projets.
Merci à vous, parce que c'est vous qui êtes important. Si on reste dans notre chambre et sans médias qui font le relais et tout, on peut pas faire grand chose. Donc merci à vous surtout.
On est là pour ça, nous, ça nous fait plaisir. Maintenant on va écouter un reportage de Chloé.
Moi j'étais au Hall Saint-Martin, donc tout en bas. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un concert, il y avait plusieurs concerts, pas sur la place. Donc on était au concert, et après les concerts, qui se sont finis tôt, plein de gens sont venus au café de la plage. Moi j'étais parmi les gens qui voulaient venir ici. Mais moi je suis resté pour aider ranger un barnum. Parce que c'est un barnum que je connais et que du coup j'ai déjà monté et démonté, donc je suis resté pour aider. Et après je suis revenu avec une amie, on venait les deux. Et quand on est arrivé au Hall Saint-Martin, à la rue qui monte vers Guéran, on a vu tous les chaises, les verres, les tables du Café de la Plage qui volaient dans tous les sens. Du coup, ma pote dit, mais c'est quoi ça? Et pour moi, je ne sais pas trop pourquoi, pour moi c'était évident que c'était une descente des FAF. Donc je n'ai pas hésité un seul moment. Parce que depuis 2 ans que ça arrive, de façon isolée, 2-3 personnes qui se font taper, une personne qui s'est fait taper. Et les niveaux de violence qu'on voyait depuis les Halles Saint-Martin, c'était un niveau de violence que ça pouvait être que ça. Donc je suis monté en courant, et quand je suis arrivé, il restait pas grand-chose, les FAF étaient déjà partis. 5-10 minutes après, il y a 2 camions de police qui arrivent sur la place. On était 80 personnes au niveau du Café de la Plage, et il y a 10-15 flics qui descendent du camion, qui prennent les gazeuses et qui se mettent en ligne. Pour moi, une attitude de vouloir nous gasser pour nous faire partir dans tous les sens. Et du coup, j'ai commencé à crier, et qu'est-ce que vous faites là? Allez chercher vos copains. Il y a une vingtaine de FAF cagoulés armés dans les quartiers, allez chercher vos copains. Eux, ils ont commencé à se moquer de mon accent. Et ensuite, un copain qui était avec moi a dit la même chose que moi. Et à ce moment-là, la dizaine, quinzaine de flics qu'il y avait ont répondu « S'il y a une vingtaine de personnes armées dans les quartiers, nous ne sommes pas équipés. » Ils sont rentrés dans les camions et ils sont partis. Ils se sont juste alignés et sortis les gazeuses. Ils avaient les gazeuses dans la main et ils n'ont rien fait. Ils n'ont vraiment rien fait. Il y a plein de gens qui ne se sont même pas rendus compte que les flics sont venus. On les a criés d'aller chercher les FAF. Ils se sont dit « Ah, on n'est pas équipés pour ça. » Et au lieu de se dire, il y a une vingtaine de personnes armées dans les quartiers, on va appeler des renforts, on va rester ici pour si jamais il revient, on va faire quelque chose, ils sont partis. C'était tout était trop chaotique, ça, c'est vraiment compliqué là. Tout était trop chaotique.
Donc il est 18h47 et nous sommes ici dans un rassemblement contre le fascisme à Arrêt-Château à Brest. En réponse aux événements qui s'est déroulé samedi 20 septembre au Café de la Plage, Place Guérin, où plusieurs personnes qui ont scandé « Brest nationaliste » sont venues avec des battes de baseball agresser les clients du bar. Un acte de violence extrême dont la vidéo est visible sur Internet. On est au rassemblement justement contre le fascisme. Donc on est avec une manifestante du coup. Est-ce que tu peux me dire d'où tu viens de Brest?
Donc de Saint-Martin, du quartier Saint-Martin.
D'accord, donc tu connais Place Guérin et t'es familière avec Place Guérin. Est-ce que t'as l'habitude de manifester?
Oui, plutôt. Oui, j'ai l'habitude.
Qu'est-ce qui est important pour toi de venir justement manifester ce soir?
Et du coup, tu disais tout à l'heure, même si en effet j'étais pas là le soir de l'agression, mais j'habite le quartier et même en fait j'habite Brest. Et du coup, c'est pas possible que des agressions comme ça et que le fascisme à Brest prenne de la place comme ça. Et du coup, voilà, on est là pour dire qu'il n'y a pas moyen. Voilà. En fait, il peut y avoir plein de mouvances, entre guillemets, différentes et avec des points de vue et des stratégies différentes. Mais là, à mon avis, c'est hyper important de rester soudé, et parce qu'on a tous un même objectif qui est battre l'extrême droite et le fascisme et faire arrêter les agressions à Brest. Du coup, je trouve que c'est hyper important de rester soudé. Même s'il y a des ententes et tout ça, et ben, en fait, je pense que c'est super si on peut réussir à passer outre, quoi. Et voilà.
Est-ce que tu étais à l'AG qui s'est passé à Saint-Martin lundi ?
Oui.
Qu'est-ce qui en ressort pour toi de cet AG-là ? Est-ce que ça a été constructif ? Est-ce que tu es contente aussi de ce qui s'est passé ?
Ouais, bah, je pense que c'est hyper bien qu'il y ait des AG régulières. Et je pense que bah, c'est aussi plus... Enfin, on est très nombreux dans les AG, donc les entre guillemets radicaux, antifa radicaux, et ben, ils sont peut-être moins nombreux d'habitude. Et du coup... c'est plus facile d'organiser une AG et tout ça. Là, on était très nombreux les deux soirs. Et le deuxième lundi, c'était vachement plus, j'ai trouvé, organisé, avec la parole à tout le monde et tout ça. Et comme on parlait, il y a les AG pour le 10 septembre, et ben, on prend du galon.
Par exemple, il y a des jeunes, ils ne savent pas comment s'investir, je pense, politiquement ou alors faire partie d'une association. Ils ne sont pas forcément au courant. Donc, tu penses que, par exemple, aller manifester, se présenter aux manifestations, ça peut être un acte politique aussi pour les jeunes ?
Oui, carrément, je pense qu'aller manifester, c'est un acte politique.
Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou pas ?
Restez Antifa et le restera. Forever. David Ken.
Comme tout Brest, comme tout le monde entier, est antifasciste. On n'en veut pas ! Ni ici, ni ailleurs !
Merci à tous et à toutes d'avoir écouté C'est vous qui le dites. On se retrouve demain à 18h sur Radio U. Bonne soirée!